pour l'enfant à Charleroi, pour le moment, je ne vois pas qu'on bâtit quelque chose. Et actuellement, justement, dans la région de Charleroi, on ne voit plus que des cimetières des usines sidérurgiques ou métallurgiques.
Voilà, pour nos enfants, ben, courage, hein.
On ne sait pas les mettre, on ne sait pas où les mettre, hein. Enfin, ils ne savent pas où aller. Essayer de refaire en sorte des parcs de jeux, des endroits où ils peuvent être, se sentir déjà acceptés, qu'ils ont le droit de venir, qu'ils peuvent tout simplement s'amuser, s'aérer des études.
Moi, je crois que pour le moment, c'est difficile d'imaginer un avenir dans une ville où il y a des trous partout. On ne s'y retrouve pas. Il n'y a pas d'endroit un peu cocoon, quoi, où on peut se mettre autour d'un banc, à l'ombre d'un arbre.
Moi, je trouve que Charleroi, c'est une ville morte. C'est une ville sans âme. Et avec ce qu'ils veulent construire, c'est plutôt une ville pour les riches et pas pour le petit peuple comme nous. On n'ose plus sortir nos enfants parce qu'il y a une insécurité. Il n'y a que des usines en démolition ou bien des usines abandonnées.
Moi, ce que je pense de Charleroi, c'est que en fait, on est en train d'un petit peu maquiller les mots de Charleroi afin de faire venir des pseudo-riches, du pseudo-capitalisme. Il faudrait qu'on accepte nos mots. Il n'y avait pas besoin spécialement de faire des millions et des millions d'euros de travaux, simplement de bonnes rénovations.
J'ai habité Marchennes un peu par obligation. Mais je veux dire qu'à l'époque que j'ai habité Marchennes par obligation, je ne m'y suis plus. À ce moment-là, tout tournait et tout vivait.
C'est sale, quoi. Pour moi, c'est l'impression que les routes sont sales, tout est dégradé, on laisse des usines comme ça. Pour moi, Charleroi, c'est une ville morte.
Moi, je suis de Charleroi parce que j'y suis née, tout simplement. Et j'ai eu une enfance heureuse et insouciante dans Charleroi. C'est plus le cas.
Moi, si j'avais su, si j'avais pu, je ne serais pas venue vivre à Charleroi.
C'est vrai que cette impression de ville morte, c'est vraiment ce que j'ai ressenti.
À Marchienne, il manque l'ancienne convivialité des familles. Si on m'en donnerait les moyens, je viderais la tour de police de Charleroi, l'aménager pour tous les pauvres, les SDF de la ville et des alentours.
Ouais, je dirais globalement, de 1760 jusqu'au début du XXe siècle, la Wallonie était la région la plus riche d'Europe et Charleroi était la ville la plus riche de Wallonie. Donc Charleroi était la ville la plus riche d'Europe. C'était un centre industriel d'une puissance sidérante.
Le passé de Charleroi, qu'est-ce qu'on en a fait? Pour aller vers un pire, moi je vois que ça, quoi. Donc c'est pas intéressant. J'ai joué beaucoup dans des trucs comme ça. Et c'était chouette. Voilà. Morose. Café populaire, café bistrot où tu peux avoir des conversations intéressantes avec des gens. Il n'y en a plus. Donc pour moi, Charleroi est vraiment mort. Aujourd'hui, même s'il va y avoir un grand centre commercial, moi, pour moi, ça, c'est pas la vie de Charleroi, ça. Tout le monde travaillait dans les années 70. Tu quittais une usine, t'allais en face travailler. Avant, c'était pas l'ouvrier qui cherchait du travail, c'est le patron qui cherchait des ouvriers. Le vieux Charleroi plein de pavés, où les gens, où il y avait toujours souvent des fêtes quand même. Coquerille, c'est ça, Coquerille sambre. Non, Charleroi, c'est moche. Ah, c'est sûrement pas dans les belles galeries qu'ils vont se souvenir des mines.
Mais ma ville m'intéresse beaucoup. Ça a commencé vers les années, fin des années 60, début des années 70. par la fermeture des premiers charbonnages qui n'étaient plus rentables, où le travail manufacturier a aussi franchement diminué au profit de la robotisation. Il faut savoir aussi qu'ici à Marchiennes, on a construit sur un site qui se situe à un jet de pierre de la gare de Marchiennes des voitures de grand standing des années 1900, c'était l'Imperia. Il y a une reconversion possible pour les anciens sites industriels. Parfois, il est tout à fait intéressant de conserver le site et d'y remettre de l'industrie, parce que les industries de l'époque, elles étaient souvent raccordées au chemin de fer, en bordure du canal. Aujourd'hui, ces accès n'ont quasi pas bougé, et c'est parfois toujours intéressant et tout à fait intéressant d'avoir, surtout dans le cadre du développement durable dont tout le monde parle maintenant, de pouvoir exporter ces produits ou de faire entrer ces matières premières par le rail, par l'eau plutôt que par la route. Des reconversions étaient... Une autre, c'était de raser complètement le site pour reconvertir. Alors, reconvertir avec quoi? Mais cette réhabilitation de site a un coût, parce qu'elle est souvent corollaire de pollution, qui s'occupe de réhabiliter les sols, a des coûts énormes pour dépolluer ces sites et pour leur rendre une nouvelle vie. Donc, il est parfois intéressant de laisser un site en l'état, d'y continuer des activités industrielles avec une dépollution légère plutôt que de faire une dépollution en profondeur. Mais il y a des réussites, par exemple, autres. C'est celle de reconvertir des sites industriels anciens en musée. Et on a un musée qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO à Charleroi. C'est le Bois du Casier, où, malheureusement connu pour la catastrophe qui a eu lieu en 1956. Et c'est extrêmement intéressant aussi pour notre histoire d'avoir des lieux emblématiques comme cela. Et aujourd'hui, à Charleroi, il y a un groupe citoyen qui vise la protection du dernier haut fourneau de Charleroi. Alors, c'est tout un emblème, parce que si cet outil devait être détruit dans 20-30 ans, qui pourra un jour imaginer que l'on a fabriqué de l'acier à Charleroi? Comment ça se faisait? Quels étaient les processus? En visualisant le haut fourneau, toutes les générations pourront comprendre un peu la fabrication de l'acier qui a fait notre richesse. Oui, le Martinet, eh bien, c'est en 2016, au mois de juillet 2016, il y aura 40 ans que le comité de défense s'est créé. En 76, ça a été une lutte impitoyable, convaincre les politiques pour faire changer des lois. Et ainsi, après 23 ans d'action, nous avons réussi à obtenir à ce que les terris du Martinet soient un, propriété de la ville de Charleroi. Deuxième succès, le classement du site par la Commission royale des monuments et sites. Depuis 1999, on s'active à la réhabilitation des anciens bâtiments du Martinet. Donc, au Martinet, on a conservé la salle des pendus, une salle à locomotive, ancienne salle où on réparait les locomotives, où on préparait les feux, des pollutions, cette démolition de certains bâtiments et réhabilitation d'autres. En tous les cas, compatible avec les lieux environnants, et je parle là de la réserve naturelle des terris du Martinet qui est classée. Donc, pas question de venir faire une usine à goudron à côté des terris. C'est la construction d'un éco-quartier. On est là en bordure du Grand Ring de Charleroi, en bordure d'une voie de chemin de fer, des accès très faciles. Nous ne sommes qu'un comité de quartier, mais nous sommes extrêmement déterminés et nous suivons absolument tout ce qui s'est fait, tout ce qui se fait et tout ce qui se fera sur le site du Martyré. Et tout doit se faire en liaison avec la faune, la flore, la vifaune, etc. 75, 77 espèces d'oiseaux différents. Un petit 600 espèces végétales qui ont été répertoriées. Et on est à quelques 80 espèces de champignons différents. Depuis 3-4 ans, on a une biche avec ses fangs. Il y a aussi des renards. Hein. Finalement, c'est quand même pas mal. Hein. C'est une réserve naturelle en pleine ville. Il y avait encore les cantines des mineurs là, autour du charbonnage. J'ai le souvenir de voir encore ces gens qui revenaient de leur travail tout noirs. Il y avait une vie sur la rue. À l'arrêt du tram, il y avait beaucoup de monde. Aujourd'hui, beaucoup de gens montrent l'autre comme étant quelqu'un de différent. À l'époque, je pense qu'il y avait autant d'étrangers à Charleroi. Il y avait bien sûr une grosse colonie italienne. On ne ressentait absolument pas les problèmes de racisme, de rejet, de différence avec les autres communautés. Les gens étaient beaucoup plus solidaires de réaménagement de la porte ouest à Charleroi. Ça touche Marchiennes. L'assainissement de friches industrielles, notamment le site qui accueille les déchets, les scories de Thy-Marcinelle, pour amplifier cette rénovation de Marchiennes, du cœur de Marchiennes. Qui peut aujourd'hui imaginer que là où il y a Ville 2, c'était un site minier, c'était un terri qui a été complètement arasé. Charleroi est une ville extrêmement intéressante. Il y a quelques 470 hectares de sites industriels et qui vont faire l'objet d'une rénovation en profondeur. Ces transformations, on les appelle des dossiers SAR, qui signifie site à réhabiliter. Richesse architecturale, on ne peut pas faire table rase du passé. On vient de quelque part et je crois que c'est extrêmement enrichissant. Voilà, certes, si ce sont des friches, elles peuvent, elles, aujourd'hui, elles ont en tout cas un énorme potentiel pour redynamiser Charleroi. C'est une richesse énorme. Et je crois que les autorités communales ont aussi saisi l'opportunité de ce nouveau tourisme et en valorisant ce patrimoine vert. Tisser des liens sociaux, culturels, techniques, patrimoniales entre tout le bassin du Nord Pas-de-Calais et le bassin minier wallon. On espère beaucoup. On estimait que on ne pouvait pas comme ça décider d'éradiquer un terri du paysage. Des ciels vraiment magnifiques à Marchiennes, sur le site de la Providence, on voyait la fabrication de l'acier. Et à un moment, dans la fabrication de l'acier, on souffle de l'air dans les bassins pour brûler le carbone et ça projette dans le ciel des étincelles. Et ces étincelles et les ciels prenaient des couleurs différentes au fur et à mesure de la phase. C'était vraiment sublime. J'étais fasciné par cela.
Charleroi d'avant, quand j'étais gamin, c'est le mot Providence qui revenait le plus. Providence. Des cheminées qui crachaient des fumées oranges, qui sentaient très mauvais, qui sentaient la proute, qui sentaient le soufre. C'était des fumées noires qui salissaient les murs. Mais oui, mon enfance, c'était les charbonnages. C'était aussi Charleroi sans le ring, sans le R3, avec... C'est une Charleroi très industrielle, très, très ouvrier. Charleroi, c'est surtout une ville où il fait bon vivre. Bon, maintenant, je pense que quand le boulevard Thiroux sera fait, enfin, du moins, pas le boulevard Thiroux, mais plutôt le centre rive gauche, que ça, si ça renaît, et que le bruit de la montagne suit dans une forme de renaissance, en espérant que ce soit encore possible, parce qu'entre les solderies et les magasins de chichi, comme on dit, on ne reconnaît plus trop cette rue qui était quand même un des fleurons commerciaux aussi de la ville, du centre-ville. Ben, on espère qu'on pourrait avoir un centre-ville cosmopolite et vivant et moderne. Est-ce que c'est vraiment ça la vie ? Est-ce que la qualité d'une ville ne se retrouve pas plus autour des tables du Vecteur ou des tables de la brasserie de l'Éden ou même des tables de la cuve à bière ou de ce sac à vin ou d'un autre endroit où les gens se rencontrent pour vraiment faire le monde et parler de choses et autres ? Est-ce que c'est pas plus important ça qu'un centre commercial avec des enseignes comme il y a partout dans le monde, de Saint-Pétersbourg à Los Angeles ? Ça ne sert à rien d'essayer de sauver la sidérurgie dans des pays où les gens qui y vivent ne veulent plus travailler dans ce genre de choses. La génération d'ouvriers qui y est, elle veut bien y travailler, mais je ne pense pas qu'il y ait une génération jeune qui veut faire ce boulot-là. C'est parce que certains boulots, il y a des belgo-belges, ils ne voulaient plus les faire. Mais bon, apparemment, c'est Mittal, qui a quand même un nom prédestiné pour travailler le métal, et qui passe son temps à tout racheter et à tout remettre là-bas. Donc, ben, il faut les laisser faire. Qu'est-ce que tu veux ? Faut attendre que le prix de la main-d'œuvre en Inde monte et après que ça puisse de nouveau éventuellement être compétitif. Et... Ben, la culture, ça, je crois qu'on est bien, on est franchement bien loti. Hein. Il n'y a pas beaucoup de villes, je pense, où il y a qui se font traiter, vu de l'extérieur, de Nouvelle-Berlin et des choses comme ça. Hein. Je veux dire, c'est pas rien hein, quand ils parlent de Charleroi, qu'on voit, bon, même si le rock-reel commence un tout petit peu à s'embourgeoiser dans la musique de danse, etc., etc., et même si des gens disent que maintenant il y a de moins en moins de Carolo, mais de plus en plus de vendeurs de drogue qui viennent de France et ailleurs, bon, ça reste quand même un endroit fantastique, une récupération du patrimoine industriel remis à jour et mis dans les mains des personnes et des Carolo et des artistes.
Ah, mais Charleroi, c'était une des villes les plus riches au début du 19e siècle. Elle a bâti sa richesse sur la sidérurgie, sur le charbon, sur les verreries. En matière de construction métallique aussi, il y avait de très très grandes entreprises à Charleroi, notamment les ASEC, qui ont employé jusqu'à 10 000 personnes sur les trois sièges confondus. Le siège de Charleroi, c'était 5 000 personnes. On y construisait du moulin à café à la centrale nucléaire, ou en tout cas des parties de centrales nucléaires, les rotors, les alternateurs, les transformateurs, etc. Donc il y avait énormément de savoir-faire dans cette entreprise-là.
D'où voilà, des réussites industrielles comme Solvay, comme Cockerill à l'époque. Je pense que la seule chose pour laquelle on milite, c'est le droit de s'amuser, de boire de la bière et de crier « Allez le Sporting !» Mais Charleroi est une ville où les gens ont envie qu'on leur foute la paix aussi. Je crois que c'est ça. Charleroi, on les pointe du doigt partout. C'est la ville la plus laide du monde, c'est la capitale des baraquis, etc., etc. Oui, c'est très bien, mais on s'en fout. Mais non, voilà, moi je crois qu'il faut, évidemment qu'il faut être optimiste, sinon quel intérêt.
Non, il y a de moins en moins de pelouses, il y a de moins en moins. Ils font plus de bâtiments, ils construisent vraiment tout ce qui est solide, donc moins de verdure, moi je trouve. Et dans les parcs, ils s'y font de toute façon pas grand chose. Hein.
Mais ça va rénover, s'il y a quelque chose, c'est un mort quelque part, il y a toujours une naissance.
Avoir détruit une partie, je dirais, du boulevard Thiroux, ils auraient pu faire autrement, quoi. Non, évidemment, quand on met des millions sur la table, riche envers soi, voilà, quoi. Il n'y a rien à faire. C'est... Ils sont battus pendant des années, mais évidemment, des petits par rapport à un milliardaire.
Mais nous, on est en période de transition, on a l'impression que tout s'échappe, tout décape. Voilà. Mais en fait, moi, je trouve qu'il faut laisser faire les choses, laisser venir et voir futuriste.
Il s'occupe d'un endroit et il délaisse les autres.
Oui, oui, ça fait des exclusions, ça mal pensé.
Il faut penser aux enfants avant tout.
Après oui, il devrait faire des trucs culturels pour les enfants, les parents, attirer des foules un petit peu.
Et ici, je trouve que ce qu'il fallait garder au moins, c'était les colonnades. Mais comme ils ont dit qu'ils voulaient que leur gros bâtiment énorme doit être vu des deux côtés, même du boulevard Thérou, ben avec l'argent, ils ont fait raser.
J'ai de la nostalgie sur certaines parties de la ville basse qui ont disparu.
Ici, il habitait au baraquement. C'était des baraques. En 1950. C'était un vieux campement de prisonniers hollandais. C'était vraiment... Mais je dois dire quelque chose. On a passé 4 ou 5 ans. Là. Mon père était mineur.
Ah oui.
Mais quand on est venu ici, la vie des gens qui habitaient les baraques, très pauvres, hein, eh bien, ils étaient tous unis. Le campement, on était tous unis. C'était qu'une personne là. Mmh. N'importe qui dans le camp pouvait avoir des problèmes. Il y avait toujours quelqu'un qui était là pour remédier et pour aider. Ça a été les plus belles années que j'ai connues. Surtout, ce qui était embêtant, je dis encore, c'est quand on travaillait le dimanche, qu'à 6 heures du matin, il faisait bien froid. J'étais dehors pour aller à la gare, pour prendre le train, pour aller travailler. Et que je m'imaginais les autres dans la chambre en train de bien dormir et se reposer. Et moi, dans le froid, allez-y. Les grosses journées, c'était les casses. Et là, je vais dire, la souffrance y était parce que quand le haut fourneau faisait une percée, on était obligé, pour ne pas mettre le haut fourneau et le personnel trop longtemps au chômage, effectuer la réparation. Mais il fallait rester pendant 8 heures devant un trou qui était dans le blindage du haut fourneau, d'où sortait toute la chaleur. Et alors il y avait le soudeur, celui qui faisait la prestation de réparer ce trou. Mais on se relayait toutes les 5-10 minutes, on se changeait. Parce qu'on n'aurait pas soutenu le coup à rester devant 1200 degrés. Donc, on soude et on ajuste et on termine parce que... Et alors, donc, il fallait prester vraiment, faire du travail propre et bien pour que ça marche. Mais les heures qu'on passait là, la dernière fois que j'ai fait la casse de la chapelle du Haut-Fourneau, je me rappelle, on a presté 32 heures sans retourner. Qu'on dormait même sur place, devant la chaleur, le froid derrière, la chaleur devant. Mais après, quand les 32 heures ont été prestées, c'est le contentement qu'on avait d'avoir fait quelque chose de formidable. On était contents entre nous de dire, tu vois, ça a été quand même, on a eu dur, on a eu difficile, on a eu du mal, on a eu chaud, on a eu froid, mais c'est réparé. Le chômage est diminué, le haut fourneau redémarre, on est tranquille, ça va bien. Il y avait beaucoup d'endroits où on devait prester. Il y avait le haut fourneau, il y avait la série, il y avait les laminoirs, donc il fallait aller partout. Le mal était là, on avait du mal. Il y avait 18 ans quand j'ai commencé, on avait affaire à des dragons. Les anciens qui étaient là, ils ne se laissaient pas faire. Et il ne fallait pas jouer avec leurs pieds. Et des claques et des coups de pied, on en a eu. Nous, moi ça, je me rappelle bien. À la Providence, derrière, où il y avait, quand tu longes la coquerie, quand tu rentres à la coquerie, tu continuais tout droit, puis il y avait un chemin à gauche.
Ah, oui, c'est juste.
Et bien, c'était une route communale. Mais il y avait un café, là. Et les lamineux du train 900, ils allaient au café, là, et ils buvaient dans les casques, à la pompe.
Je me suis retrouvé en Allemagne, à un congrès du syndicat international des sidérurgistes. Et alors j'étais tellement surpris parce que c'était comme ici, donc une zone, la Roue, dans la Roue, hein, une zone sidérurgique. Et ils avaient, primo, ils n'avaient pas détruit la sidérurgie, ils en avaient fait un musée. Et donc justement, on en parlait du fourneau du Ferco, là, du haut fourneau qui reste. J'en ai entendu parler qu'il y avait déjà des réunions qui se préparaient par rapport à ça. Je dis mais c'est vrai que c'était intéressant. Moi j'ai vu, j'étais surpris parce qu'on était dans un congrès, donc dans un hall ils avaient fait une pièce où on pouvait faire du théâtre. C'était en même temps un lieu de congrès. On était à 1000 hein, dans cette salle. C'était très, très bien rénové. Et donc, c'est vrai qu'avec tous ces salles, ces halls, on peut faire énormément de choses. En même temps, on sortait de là, on était dans un parc avec des arbres, mais on était au pied des hauts fourneaux. On montait des petites passerelles, on allait voir le gueulard, le haut fourneau, et on pouvait se promener, et ils avaient laissé tous les électrofutes, ils avaient laissé toute la sidérurgie comme ça, ils l'avaient simplement sécurisé, aménagé, fait des passerelles en béton, et on se promenait, d'ailleurs je faisais le guide. J'étais un des seuls qui était un ancien sidérurgiste, et j'expliquais comment tout fonctionnait aux gens, et c'était propre, c'était, enfin... Ils n'avaient pas tout détruit, ils n'avaient pas fait un désert, ils en avaient fait quelque chose de culturellement intéressant. Parce que je trouve que la mémoire, c'est très important. Les gens avaient une fierté de travailler. Moi, je me rappelle, quand on rallumait au fourneau, je m'occupais de la chimie des gaz, je devais attendre que le gaz soit bon pour l'envoyer à la centrale électrique et qu'il ne fasse pas exploser la centrale électrique. Donc je faisais des analyses, ça durait 30 heures. Et c'est vrai qu'il y avait une fierté du sidérurgiste, de ce qu'il faisait. C'était un métier, quoi. Donc, quand j'ai quitté d'ailleurs la sidérurgie, quelque part, je quittais quelque chose qui me plaisait beaucoup. Mais je restais aussi proche d'eux, puisque je m'occupais aussi de leur lutte et de leur convention. Donc, mais c'est vrai que j'ai vu ça en Allemagne. Et tout près de ces usines, ils avaient changé les halls par de la fabrication des petites entreprises qui faisaient des capteurs solaires, de l'éolien. Et donc, ils avaient vraiment... mis des investissements publics pour aménager le site et en même temps favoriser des petites industries d'énergie renouvelable. Je dis, ça c'est vraiment... Il y a 10 ans de ça. Hein. Je me dis, franchement, on est en train de louper le coche en Belgique parce que ça, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il faut faire, d'ailleurs. Hein. Plutôt que tout raser, comme on a fait du côté de Montigny, de tout raser et puis d'essayer de trouver des gens qui vont investir, il est venu des grandes surfaces ou quelques histoires, enfin bref, c'est pas ça, recréer une zone conviviale. Et on oublie le logement aussi, parce que dans le parc, il y avait des maisons autour, mais ces maisons, on les a rénovées, il y avait du logement aussi. Et donc, je crois qu'il y a eu une volonté politique beaucoup plus importante dans l'investissement, mieux fait, pas tout orienté vers... des capitalistes qui veulent gagner de l'argent immédiatement et par des grandes surfaces ou par certains investissements qui sont des investissements de rentabilité, mais il y avait une volonté politique et publique de faire quelque chose d'autre. Je crois qu'il y a moyen, mais il faut la volonté politique pour le faire et il faut y mettre de l'argent pour aider en fait, tous les cas ceux qui veulent faire des investissements. C'est une source d'emploi aussi. Maintenant, quand je viens au souvenir de la sidérurgie, quand vous en parliez, moi j'ai eu la chance, parce que comme je m'occupais toujours des luttes et de tout ça, d'être invité, j'ai fait la dernière Saint-Éloi de la Coquerie, de Marchiennes. Et ça, c'est une fête extraordinaire. Dans tous les réfectoires, hein, les gens se faisaient à manger. Et on passait de réfectoire en réfectoire, dans le service électrique, dans le service thermique, dans le service production, etc. Et donc j'étais invité à cette Saint-Éloi. Et c'est vrai que moi j'ai des souvenirs extraordinaires de cette convivialité des gens. C'était une famille en fait. Comme on disait, c'est du registre un jour, c'est du registre toujours. Et donc parce qu'il y avait une ambiance, parce que c'était dur, parce que c'était dangereux. Bon, c'est vrai qu'à un certain moment, on avait quasiment un mort ou deux par mois dans la région de Charleroi, rien qu'en sidérurgie. Dans les années 80, dans les années 70, il y avait des morts tout le temps, hein. Que ce soit à la scierie, que ce soit au fourneau, que ce soit à la minoire. C'était là que se faisait la politique syndicale, la politique de solidarité, la politique de lutte, la défense des salaires, de la sécurité sociale, des acquis. Et ça, c'est ce qui se perd un petit peu maintenant, parce que ces gros ensembles industriels ne sont plus là, et que cette solidarité des travailleurs existe beaucoup moins. Elle existe encore, heureusement, dans certains services publics, mais les friches industrielles permettent de rappeler et les conditions de travail, et les acquis, et comment s'est développée toute la solidarité, tous les acquis des travailleurs autour de ces usines qui sont toujours là et qui doivent être mises en valeur.
C'était aussi déjà multiculturel, en fait, hein, parce qu'on avait plusieurs cultures. Hein. Il y avait des gens qui venaient, comme nous autres, on est du Nord, un petit peu comme la Flandre et la Wallonie. Là, c'était le Sud et le Nord. Le Nord ne s'entendait pas très bien avec le Sud, mais finalement, comme on vivait évidemment en comité, et train, hein, qu'on habitait tous dans le même patelin, ben, on n'y pensait plus à tout ça. Donc, on vivait tout à fait normalement. Et très bien comme ça, ça s'est très bien passé d'ailleurs. Comme il dit, c'était nos plus belles années. C'est vrai qu'on a fait notre jeunesse là-bas, franchement. Et puis une autre partie de notre jeunesse à Marchiennes. Toujours Marchiennes, mais autrement, quoi. Donc on a dû partir, puisqu'après on a démoli les baraques. On a dû partir, on est obligé, parce qu'on ne voulait pas partir. Malgré que c'était des baraquements, on ne voulait pas s'en aller. Et Marchienne, finalement, on y a bien vécu aussi, parce que Marchienne, ce n'était pas comme aujourd'hui, quoi. C'était des commerces, c'était tout, quoi. On pouvait sortir, on pouvait aller au cinéma, on pouvait rentrer à des heures impossibles. Quand on était jeune, on ne regardait pas tout ça. Tout n'est pas aussi noir qu'on veut le faire croire non plus. Si vous voulez regarder Marchienne comme il faut, vous mettez vos yeux un petit peu partout, vous montez sur un terri, vous vous gardez au-dessus, vous vous retournez comme ça, et vous voyez Marchienne tout à fait différent. C'est très joli. Vous y voyez le travail qu'il y avait avant en verre, dans les usines, on voit les usines, on voit encore le charbonnage, des vestiges du charbonnage. La lumière des villes, tout ça, c'est très joli. Quand vous êtes là au-dessus, c'est une vision qu'on ne voit pas ailleurs, je vais dire ça ainsi. Il reste encore aussi des maisons bourgeoises, très jolies maisons. Ils ne regardent pas, ils ne regardent que les crasses que vous voyez sur le chemin. Moi, je ne fais même plus attention à ça, je ne regarde pas. Vous allez sur les berges de la Sambre, à Marchienne, je ne parle pas de Charleroi, mais vous allez à Marchienne même. Vous pouvez allonger la Sambre, vous voyez de la flore, la faune, il y a tout. C'est très joli, il faut voir tout ça autrement, je trouve. C'est peut-être ça qu'il faut changer à Marchienne, c'est que les gens sont négatifs. Il y a toujours du négatif, il n'y a pas de positif. On n'est jamais mort à Marchienne parce qu'on disait toujours les mauvaises fumées des usines et tout ça. J'ai 76 ans, je ne suis pas encore morte, malgré les particules touchant du bois.
Ça veut dire groupe d'action musicale. On a commencé à nous demander, on jouait de la musique pour le plaisir, et puis on nous avait demandé de faire un concert de soutien à la grève des dockers en 73. Et puis dans l'été 74, il y avait un copain de Charleroi qui nous a demandé de venir soutenir un mouvement de grève au Gré de Bouffioux. Au Gré Guérin à Bouffioux, il y avait une occupation des Gré Guérin, et où ils appliquaient le slogan de l'IP, on travaille, on produit, on se paye. Donc ils vendaient leur propre production pour lutter pour le maintien de leur emploi. Alors on est arrivé là, et donc nous, on était des musiciens, on écrivait des petites chansons. On a écrit une chanson pour les Grès de Bouffioux, et sur l'autre face, on avait gravé l'International. On faisait un petit 45 tours qu'on dit qui servait à soutenir le mouvement de lutte. Voilà. Et alors, dans ces entrefaites, on a fait le même genre d'intervention à Glaver-Belgili. Et alors, l'arrivée à Marchienne, c'est quand il y a eu une grève au début de 75 aux ateliers en Ré à Marchienne-au-Pont. Par ces entrefaites, on a créé une chanson, délégué, tu t'en vas négocier, délégué, reste de notre côté. À cette occasion-là, on nous a demandé de la chanter à gauche et à droite, surtout à gauche. Marchienne, quand on est arrivé, c'était vivant. Il y avait déjà le tram qui passait sur la route de Mons. Et ça, c'était vivant, les gens prenaient le tram. Maintenant, le tram, il s'arrête où? Il s'arrête là. Quand il arrive à Goutrou, c'est dans un désert. Le tram, c'était beaucoup plus malin. Qu'on a fait cette espèce de truc qui ressemble à Walibi, qui vole dans le ciel, puis qui s'enfonce dans la terre. Ça a dû coûter des millions, ce truc. Et c'est absurde, quoi. Les cafés étaient pleins d'ouvriers, il y avait une ambiance. Quand il y avait des manifestations, on voyait des gens qui passaient, tout ça. Et il y avait toutes sortes de gens, et les gens se mélangeaient. Les gens, ils se sont réunis ici, pourquoi? Parce qu'il y avait des usines. C'est pour ça que les gens sont venus. Parce qu'il y avait des charbonnages et qu'il y avait des usines. Et puis les charbonnages et les usines ont scapé ailleurs. Alors maintenant, les gens, ils restent là. Voilà. Et voilà. Alors, est-ce qu'il faut... Alors, il y a des gens qui vont travailler ailleurs. Bon, évidemment, on voudrait que ça soit une ville agréable, chouette, sympa, où il y ait du boulot. Mais par quel bout le prendre, quoi? Il faudrait créer des activités intéressantes et sympathiques et tout ça. Mais ça, c'est général. C'est pas qu'à Marchienne, je veux dire. Je pense que le problème du monde dans lequel on vit, c'est justement qu'il y a des gens qui prennent des décisions et des autres qui les vivent. Bon, on pourrait évidemment espérer une ville beaucoup plus équilibrée, ouverte, où les écoles soient pas loin du jardin, du potager, où il y a une pharmacie. Un truc que j'ai déjà pensé, moi, par exemple, la gare de Marchienne.
On pourrait transformer, on pourrait faire un truc fantastique à la gare de Marchienne. Tous les nafteurs, tous les jours, ils arrivent. Pourquoi on ne fait pas des magasins, des pharmacies, un truc vivant, une petite école, une crèche et tout ça?
Oui,
donc, mais... si l'argent qu'on donne aux chômeurs, on le donnait à des associations qui engagent des chômeurs, mais qu'on donnait cet argent pour aider ces petites sociétés à fonctionner, à faire des petites coopératives, oui, des trucs locaux, ouais, et tout ça, ce serait plus intelligent que payer des chômeurs à rien faire. Donc, on donnerait le même argent, mais pour soutenir des activités et donner une rentabilité, disons, sociale, pour dire aussi des choses agréables. Je veux dire, moi, je préfère habiter là où j'habite, à Gouttrou, à deux pas de Marchienne et de Monceau et tout ça, qu'habiter à Bruxelles. Parce qu'il y a plus d'air, il y a plus de place, on sait circuler, les gens sont plus aimables, tout ça. Je me sens beaucoup plus détendu ici. Pour moi, revenir ici, dans la région, quand je reviens de la ville, je me sens... Je respire, quoi. Parce que les gens de Bruxelles, quand on leur dit habite, pour eux, Charleroi, c'est... comment il y avait le Carolopithèque, ils avaient trouvé ça, ce truc rigolo. Il y a vraiment une espèce de racisme, hein, contre les gens de Charleroi, maintenant. Mm-hmm. Hein. Mais quand on leur dit habite Charleroi, alors qu'en fait, moi, je trouve que c'est super bien ici. On est loin de rien, non plus. C'est pas de...